Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Daniel Tambizoni.
Les femmes du territoire de Rutshuru disent non à l'instrumentalisation de leur communauté par des politiciens en quête de positionnement. Elles l'ont dit hier au vice-gouverneur de la province en séjour depuis dimanche dans leur terroir. Le vice-gouverneur est allé pour la médiation entre les ethnies en conflit. La cité de Bijombo est sans école. Aucun établissement scolaire n'a repris les activités. Plus de deux semaines après la rentrée des classes, toutes les écoles ayant été détruites pendant la guerre intercommunautaire. Reportage à suivre dans un instant. L'invitée de ce journal, Madame Bernadette Chungu, présidente de l'ONG Eli Kianabiso, avec son association, elle sensibilise les femmes contre le cancer à l'occasion de Octobre Rose avant de procéder au dépistage gratuit. Voilà pour les titres. Vous êtes les bienvenus à cette édition sur Radio Okapi. Nord Kivu et en territoire de Rutshuru pour ouvrir cette édition justement, les femmes des différentes communautés locales ont dénoncé et de vive voix hier mardi à Kiwanja l'instrumentalisation de leur communauté ethnique par certaines personnes qui attiseraient le feu entre les Nandés et les Hutus dans ce territoire en quête de positionnement. Elles l'ont dit hier mardi au vice-gouverneur en séjour depuis mardi soir à Kiwanja. Le vice-gouverneur est allé sur place en vue de trouver une solution à la tension qui s'observe à Kiwanja suite à l'insécurité dont les tireurs des ficelles sont les députés élus du coin selon les femmes. Les femmes sont pour la cohabitation pacifique et la tenue d'un dialogue franc entre les communautés de Rutshuru. Madame Kasereka Maombi, l'une d'elles.
Nous avons demandé au vice-gouverneur de transmettre notre message au Parlement concernant les députés de Rutshuru, qu'ils nous aident à leur prodiguer des conseils afin qu'ils puissent nous donner des messages qui construisent et non pour détruire et diviser les communautés locales. Quand vous suivez les députés dans une réunion, vous trouvez qu'ils sont divisés. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait une commission qui va mettre sur une même table les députés de Rutshuru. Une autre recommandation est adressée au général qui vient d'arriver. Nous lui demandons de traquer tous les groupes armés et de renforcer certaines positions, surtout au quartier Mabungo Kachemu. Il faut une position des militaires à Kachemu et renforcer Mabungo afin de nous aider à rétablir la sécurité.
Les femmes en quête de la paix à Rutshuru pendant ce temps en Ituri, ce sont des hommes armés qui ont pillé plus de 400 vaches le week-end dernier dans les localités de Bourassi, Massia et Nyankeru au sud du territoire d'Irumu. Des sources de sécurité indiquent que les FARDC ont réussi à récupérer certaines bêtes après la traque de ces miliciens. Le député provincial Wilson Mugara, lui, élu d'Irumu, salue l'engagement de l'armée. Le point avec vous, Ezekiel Mouzalia.
Au village Massia, en chefferie des Bahema d'Irumu, des présumés miliciens de la FPIC se sont introduits dans deux kraals et ils ont emporté 280 vaches. Ces hommes armés ont ligoté des bouviers et se sont retirés de la zone avec les butins. L'attaque suivante a eu lieu dans le groupement Babia Kanyakeru. Une trentaine de vaches ont été emportées, cette fois-ci par un groupe d'hommes en armes identifiés aux assaillants de la Codeco. Bien plus, dans le village Kaliabugongo, à quelques mètres de la rivière Semliki, 300 autres vaches ont été pillées par les réfractaires de la milice FRPI. Ces derniers ont été poursuivis par les éléments de l'armée loyaliste. Mais leur effectif réduit ne leur a pas permis de récupérer toutes ces bêtes. Le député provincial, élu de la circonscription électorale d'Irumu, salue l'engagement des forces de l'ordre dans la traque de ces hors-la-loi. Wilson Mugara plaide par ailleurs pour le renforcement de l'effectif des FARDC dans ces entités. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit en l'entame de ce journal, dans le suite qui vaut, toujours pas de rentrée scolaire dans le groupement Bijombo, plus de deux semaines après la rentrée scolaire 2020-2021, toutes les écoles primaires et secondaires ayant été détruites pendant les guerres intercommunautaires, ainsi tous les enfants de cette partie du sud qui vous seront privés de l'éducation toute l'année en cours. Emmanuel Elamejoua Kabedi, qui se trouve sur place à Bijombo, a visité ces établissements scolaires en ruine. Voici son reportage.
Les principales écoles primaires du groupement de Bijombo sont Epe Tumaini, Epe Odari, Epe Chakira, Epe de Bijombo, école primaire Ruvette, ainsi que l'Epe Kanangananga. Au niveau du secondaire, le groupement de Bijombo disposait de l'Institut Gloria, l'Institut de Bijombo, l'Institut de la Source, l'Institut Karege et l'Institut Murambi. À ce jour, tous ces établissements scolaires n'existent que des noms. Toutes les infrastructures, pourtant dures, ont été détruites dans les différentes guerres intercommunautaires. L'Institut Gloria, qui a formé plusieurs personnalités actuelles du territoire d'Ouvira, est en ruine. Seuls quelques murs de son internat tiennent encore debout. Un peu plus loin vers l'est, l'école primaire Bijombo 2, dans la localité d'Ishenge, ainsi que l'Institut de Bijombo ont été la cible des groupes armés. Les parents et leurs enfants ont fui les guerres interminables jusqu'à plus loin de leur territoire. En cette fin du mois d'octobre 2020, aucun enfant du groupement de Bijombo n'est scolarisé, toutes les écoles ayant été vandalisées. De Bijombo en territoire d'Ouvira, Emmanuel Elamejoua Kabedi pour Radio Okapi.
Les responsables des écoles secondaires de la sous-division de Beni étaient en réunion hier mardi. Objectif, évaluer les activités scolaires 2019-2020, mais aussi projeter les activités de l'année en cours. Il était aussi question de donner aux responsables des grandes directives à suivre pour mener à bien l'année en cours, l'année qui vient de commencer, tout en respectant les différentes approches pédagogiques. C'est ce que nous dit Thembo Nzanzou Achille, chef de poule secondaire, qui a présidé cet échange. Il est au micro de Guilel Kassassia.
Nous avons convenu ensemble avec le chef des établissements que nous devons respecter d'abord le calendrier scolaire. Dans notre action pédagogique, nous sommes là pour l'enseignement de qualité. Pour arriver à l'enseignement de qualité, il faut que les enseignants s'approprient les approches pédagogiques qui sont en vogue, entre autres la pédagogie active et participative. Nous avons l'approche par des compétences et l'approche par des situations que nous sommes en train de vulgariser pour ce qui est, par exemple, de l'approche par des situations en rapport avec l'éducation de base. Nous avons demandé au chef d'établissement de nous recenser et de nous déposer la liste des enseignants du domaine d'apprentissage des sciences qui ne sont pas encore formés. Et nous allons, avec les inspecteurs du domaine, voir comment les encadrer afin qu'ils soient au même niveau que les autres.
Retournons dans la province du Nord Kivu à Goma. C'est un sentiment de colère et de déception totale que les femmes des différentes organisations ont manifesté hier mardi devant la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Leur déception, c'est le rejet par les députés provinciaux de la proposition dédiée portant protection de la femme enceinte et du nouveau-né au Nord Kivu. Une proposition dédiée initiée par le député provincial Jean-Paul Lumbulumbu avec le soutien de l'Association des femmes médecins du Nord Kivu a fait Med, si Famagourou nous en parle.
Le projet de vie est irrécevable.
La majorité des députés réunis en plénière ont décidé de rejeter cette proposition pour plusieurs motifs, notamment les manques d'un budget pour y parvenir, ce qui a suscité l'indignation d'une centaine de femmes des associations qui étaient rassemblées devant la salle avec des calicots et autres messages pour soutenir cette proposition dédiée. L'une d'elles, Nelly Kea.
Nous sommes vraiment déçus de voir que nous leur votons pour leur propre intérêt et jamais pour l'intérêt de toutes ces femmes, tous ces enfants qui sont victimes de la santé maternelle.
Pour sa part, le député provincial initiateur du projet indique avoir été motivé par les constats sur les difficultés énormes dans lesquelles accouchent les femmes, surtout en milieu rural. Jean-Paul Lumbulumbu n'est pas convaincu de ces régies.
Mes collègues n'ont pas vu l'importance de protéger la femme de Nyabiondo, de Lukweti, de Pinga, de Moussienene, la femme de Nyiragongo. Mais pour moi, ça reste un besoin, une priorité pour la population et pour la femme de la province du Nord Kivu. Donc pour moi, c'est un combat qui est noble, que je ne lâche pas.
Les femmes du Nord Kivu ont promis de ne pas baisser les bras, qu'elles vont continuer la lutte jusqu'à arracher cette cause qui est un droit pour la femme en général. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Toutes les instances judiciaires du territoire de Tchila au Congo central accusent un manque criant de juges, ce qui fait que les audiences ne se tiennent plus depuis plusieurs années. L'élu de Tchila, le député national Crispin Mbadou, qui livre cette information à Radio Capi, fait également savoir qu'à cause de ce désagrément, la maison carcérale de Tchila, l'unique dans le district du Bas-Fleuve, est surpeuplée. D'autres personnes en attente, en détention préventive, sont mortes en prison dans l'attente du procès. Il demande à cet effet au Conseil supérieur de la magistrature de se pencher urgemment sur cette situation. Le député national Crispin Mbadou au micro de Nana Plurich Mambou.
Il se pose un problème de manque de magistrats actuellement. Pour le parquet de grande instance, le procureur est seul sans magistrat. Pour le parquet près le tribunal de paix, le chef de parquet est seul aussi. Il n'y a aucun magistrat instructeur. Concernant le tribunal de paix, il n'y a qu'un seul juge. Au tribunal de grande instance, il n'y a que 4 juges, mais qui ne restent pas sur place. Ils ont été affectés depuis plusieurs années, mais ils ne sont jamais permanents. Ils s'absentent des longues périodes, voire même des années. Donc actuellement, vous comprendrez que les audiences pénales qui exigent un quorum de 3 juges ne se tiennent plus depuis plus d'une année, ce qui a pour conséquence néfaste. La prison de Tchela, qui est l'unique prison du bas-fleuve, est surpeuplée. La grande majorité des détenus sont de personnes en préventive. Moi, je déplore un système entretenu qui arrête, mais qui ne juge pas. 100% des détenus sont en préventive. Pour sortir, il faut payer et ceux qui ne peuvent pas restent en prison. Certains détenus sont derrière les barreaux depuis plusieurs années, d'autres y meurent sans être jugés.
La société Transco n'est pas tombée en faillite, mais elle est en perte de vitesse. Les propos sont de Jean Moulunda, président de l'intersyndicale de cette société de transport public, hier mardi 27 octobre, ici à Kinshasa. Jean Moulunda demande au gouvernement de la République de subventionner Transco, qui a été frappé, selon lui, de plein fouet par le coronavirus. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Au mois de mars, la COVID-19 qui est intervenue, et là, Nous nous sommes dit non, Transco n'a plus de recettes. Transco ne pouvait transporter que 20 agents à 20 passagers à bord. Et à part ça aussi, il y a aussi la situation à l'interne des Transco. Avec l'épée qui entrait, il y a des pièces de rechange qu'on devait acheter. Nous nous sommes dit de nous-mêmes, on ne pouvait pas rester à l'écart. Nous sommes allés vers l'employeur. Et là, les partenaires nous ont dit clairement que non, nous travaillons pour qu'on ne puisse pas mettre nos agents en congé technique, moins encore déclarer une faillite. Pour nous, Transco, nous disons que nous ne sommes pas en faillite, mais nous sommes en perte de vitesse. Comme nous sommes en perte de vitesse, c'est question que le gouvernement puisse activer avec des subventions. L'État devait donner des subventions régulières pour aider à Transco de mieux fonctionner.
La grande cimenterie du Katanga a lancé la production de la chaux à Likasi. La chaux est une matière première qui est utilisée dans la production minière pour le ministre de l'Industrie. Cette usine évitera aux entreprises minières de dépenser des devises au détriment de l'économie locale. Julien Paloukou le dit au micro de Jean Gandou.
L'objectif est de fournir la matière première qui est la chaux au secteur des mines parce que plus de 300 000 tonnes de chaux étaient importées chaque année et ça occasionnait des sorties de devises vers l'extérieur pour finalement affaiblir l'économie locale. C'est donc une joie pour l'économie congolaise d'avoir une entreprise locale qui produit de la chaux. Très prochainement, nous aurons une deuxième usine qui va produire du ciment ici à Likasi. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes autour de 1200 employés locaux avec une projection de 2000 employés locaux lorsqu'ils auront fini la construction de la cimenterie, autour de 50 expatriés qui sont des experts chinois, parce que le constructeur de cette usine est le 12e producteur mondial de clinker. Le clinker, c'est une matière qui entre dans la composition de la fabrication du ciment. Au-delà d'être un expatrié, il tient compte des critères que nous avons fixés au niveau du ministère de l'Industrie, à savoir protéger et considérer la main-d'œuvre locale et au besoin ouvrir une école de formation professionnelle au sein de l'entreprise pour le transfert de la technologie de la Chine vers notre pays.
Actualité internationale.
Des heurts se sont produits hier mardi entre les jeunes manifestants et des forces de l'ordre à Dokro, une ville du centre-est de la Côte d'Ivoire, bastion de l'ancien président et candidat Henri Konan Bédié, à 4 jours de l'élection présidentielle, ont rapporté des témoins à l'agence France-Presse. Des jeunes ont érigé des barricades dans la matinée dans la ville ainsi que sur les routes de la région pour marquer leur hostilité au président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat contre. Près de 300 migrants en route pour l'Europe ont été été secourus ces deux derniers jours au large de la Mauritanie dans deux embarcations victimes d'une panne de moteur et deux corps ont été découverts sur l'une d'elles, a rapporté mardi l'agence mauritanienne d'information, une première pirogue ayant à bord 134 migrants sénégalais en partance pour les îles Canaries en Espagne, s'est échouée mardi sur la plage du village de Nouamgar, près de la localité de Tchami, à quelques 170 km de la ville portuaire de Nouadhibou, à l'extrême nord du pays, a indiqué l'agence mauritanienne d'information, citant une source de sécurité.
L'invité.
Et l'invité de ce journal s'appelle Madame Bernadette Chungu. Elle est présidente de l'ONG Eli Cannabiso. Son association est basée en France, à Dijon et à Kinshasa. Elle lutte contre le cancer des femmes. Bernadette Chungu est au micro de Blaise Chindali.
Bonjour Madame Bernadette Chungu.
Bonjour.
Octobre rose, un mois consacré à la lutte et à la sensibilisation sur les cancers du sein. Vous et votre organisation êtes à Kinshasa pour justement une série d'activités en ces sens. Quel genre d'activités faites-vous et comment cela évolue?
Les activités, bien sûr, vous avez dit la lutte contre le cancer des femmes en général et le cancer du sein en particulier. Les activités se déroulent sous forme de conférences pour la sensibilisation avec le docteur Dina qui est notre oratrice. Et des témoignages aussi. Ça se passe plutôt bien. À la fin, nous aurons à faire le dépistage. Cette fois-ci, ça sera le cancer du col de l'utérus.
Le cancer du sein et de l'utérus sont parmi les plus courants chez la femme. Quels sont les signes ou les facteurs qui doivent amener une femme ou une jeune fille à la consultation?
Pour le cancer du sein, les signes qui doivent amener, c'est déjà tout ce qui est changement. Le changement de la forme du sein, quand on a une petite nodule qu'on n'a pas d'habitude, quand on a des manifestations anormaux, la pesanteur de la poitrine, l'affaissement des mamelons, la peau d'orange, comme on dit, l'épaississement de la peau, tout ça, ça doit amener à consulter. Je souligne aussi que toutes les femmes, personnes à risque. Et il y a aussi, comme dans le cas de ma famille, où il y a une prédisposition naturelle. Donc, les gènes de cancer, on est porteur dans ma famille de BRCA, qui a un des gènes qui favorise le cancer des femmes et en général le cancer du sein en particulier.
À quoi est dû le cancer? Est-ce que c'est évitable?
C'est une très bonne question. Le cancer, à la différence du sida, comme j'aime bien comparer les deux, n'est pas évitable. On ne sait pas comment on attrape le cancer. Ça vient parce que la définition même du cancer, qui est la multiplication anarchique et incontrôlée des cellules qui produisent des toxines qui envoient dans d'autres organes, donc on appelle communément les métastases, pour provoquer la maladie dans d'autres organes. Pour répondre court, on ne peut pas éviter le cancer, mais il y a des facteurs favorisants qu'on peut éviter en ayant une bonne hygiène de la vie, bonne alimentation.
Pour beaucoup, apprendre qu'on est atteint d'un cancer signifie une condamnation à mort. Et c'est réellement le cas ou y a-t-il de l'espoir?
Oui, je dirais il y a de l'espoir. C'est pour ça aussi qu'on veut sensibiliser. On sensibilise pas seulement pour dire aux gens comment il faut pas l'attraper, mais pour dire à ceux qui sont déjà victimes que un cancer découvert tôt, on peut le guérir. Pour le cancer du sein en particulier, maintenant, je peux être dans des pays développés comme la France, on le soigne comme on soigne un gros rhume. C'est vrai que les séquelles sont là. Il y a la mastectomie, l'ablation du sein pour les seins et les autres organes. Pour ceux qui doivent enlever ou on enlève la nodule, et il y a la chimiothérapie aussi, qui est très très lourde à supporter. Mais après, ça reste une mauvaise période passée. Mais après, on peut retrouver la vie. On appelle des malades guéris des cancers, des gens en rémission, parce qu'on dit qu'on ne guérit jamais des cancers, ça peut revenir, mais on peut mener convenablement sa vie après avoir été victime de cancer.
Concernant les cancers, on dit toujours qu'un diagnostic précoce permet de sauver des vies. Et c'est la raison qui vous a poussé à organiser cette campagne.
Tout à fait, parce que le 8 novembre, vous serez invité d'ailleurs au chapiteau des Rubis. On va faire le rendu de nos activités. On va présenter un projet qu'on a de la construction des centres de soins qui sera majoritairement spécialisé en oncologie, donc en cancérologie. Il y aura des témoignages. Vous allez voir ma sœur qui est une très très belle femme. À côté d'elle, je n'existais pas, mais elle a déjà été victime de cancer deux fois.
Mais quelle suite quand on sait que le traitement est hors de portée pour la majorité des Congolais?
Le problème, c'est celui-là. et nous allons présenter un plaidoyer que nous demanderons aux gens de nous accompagner. Et votre radio, je pense, sera partie de ces personnes qui seront des ambassadeurs de cette noble cause. C'est à ramener le pouvoir public à considérer le cancer comme un problème de santé publique, comme l'est le sida aujourd'hui. Parce que le sida, à la limite, on peut éviter, on sait comment ça s'attrape. Par contre, le cancer, non. Les gens, ils peuvent mourir de cancer sans toutefois consulter parce qu'il y a de l'ignorance. Et si on prend que c'est cette maladie, on le prend comme un problème de santé publique, on le considère par le pouvoir public, la sensibilisation sera faite dans les écoles et partout. Et aussi, ça sera soigné et ça sera un grand pas qu'on aura fait. Et ça, c'est un de nos objectifs.
Merci beaucoup, Madame Bernadette Chongo.
Je vous en prie.